Je vous invite à ouvrir vos Bibles et dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et nous allons lire ensemble les versets 1 à 12. 1 Thessaloniciens 2, et les versets 1 à 12. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, et ni de la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous nous rappelez, frères, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste, irréprochable, envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, nous vous avons consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu et qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous avons, durant les dimanches passés, regardé ensemble un premier tableau qui nous est présenté par l'apôtre Paul au chapitre 1er. Et il dépeint au chapitre 1er une église belle, une église en pleine activité, une église qui chemine à la gloire du Dieu vivant et vrai. Mais avec le deuxième chapitre, c'est un tout autre portrait qui nous est dépeint. On se pose des questions. En effet, avec ce chapitre 2, on découvre que l'apôtre se met à défendre son ministère. Que s'est-il donc passé à Thessalonique? Certains ont imaginé que l'apôtre a été présenté sous un jour défavorable. D'autres pensent qu'il tente de déjouer des attaques d'adversaires qui se serait introduit dans la communauté de Thessalonique. Et enfin, dans beaucoup de commentaires, on nous dit qu'il cherche certainement à démasquer des charlatans. En effet, à cette époque-là, il y avait toutes sortes d'hommes et de femmes qui parcouraient le monde romain en colportant toutes sortes d'idées philosophiques, religieuses, et Il profitait de la crédulité des hommes et il profitait aussi pour gagner leur vie de cette manière injuste. Alors, regardons un peu ensemble ce texte. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai choisi de le faire un petit peu sous forme d'une étude de texte, d'une étude biblique. Tout d'abord, avec le premier verset, nous avons un appel au souvenir. L'apôtre dit « Vous savez ». Et il va rappeler au verset 2, où il va redire au verset 2, ces mêmes mots « Vous le savez ». Et encore au verset 9, et encore au verset 11, nous avons ce « Vous savez ». Ce n'est pas pour rien qu'il en appelle au souvenir, qu'il en appelle à se rappeler des événements, des circonstances qui ont précédé leur venue à Thessalonique et des circonstances de l'évangélisation aussi et dans cette ville même. Tout d'abord, avec ce verset premier, il évoque donc l'arrivée à Thessalonique. Et il dit que cette arrivée n'a pas été sans résultat. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte qu'ils ne sont restés, l'apôtre Paul et ses compagnons de service, que quelques semaines à Thessalonique. Certains pensent qu'ils ne sont restés que 3 semaines dans cette ville. Mais en quelques semaines, l'évangile percute le cœur de femmes et d'hommes de cette ville. Il y a des convertis, il y a une église qui se forme et il y a un engagement fantastique pour le Seigneur. Voilà ce qui s'est passé donc à Thessalonique. Mais le verset 2 nous précise qu'ils sont arrivés à Thessalonique après avoir souffert, après avoir été maltraités, de mots qui nous parlent de mauvais traitements physiques, mais qui nous parlent aussi de mauvais traitements humains, de paroles brutales, difficiles. La mission qu'ils ont menée dans la ville de Philippe a été très mouvementée, a été très dure. Alors vous le savez certainement ce qui s'est passé à Philippe. Il y avait là une rencontre de prière et l'apôtre et ses compagnons ont pris l'habitude d'aller vers cette rencontre de prière. Il y avait là une certaine Lydie, il y avait là d'autres femmes, et l'évangile a été annoncé. Et quelques femmes, quelques personnes se sont converties au Dieu vivant et vrai. Et puis un jour, alors qu'ils allaient vers cette ville, ce lieu de prière, eh bien, il y a quelqu'un qui les a suivis et Paul est intervenu pour une délivrance, et à ce moment-là, il y a eu de grands cris. L'homme Paul a été jeté en prison. Il y a eu, là, à Philippe, une délivrance extraordinaire, puisque Dieu lui-même a ouvert la porte de la prison et a permis qu'il y ait la vie sauve, mais aussi qu'il y ait surtout la liberté pour ses serviteurs. Et alors, Paul tient à préciser qu'ils ont connu des temps très difficiles à Philippe, des outrages, des mauvais traitements physiques, mais ils n'ont pas été arrêtés pour autant. après Philippe, Thessalonique. Et à Thessalonique, à nouveau, les temps difficiles. Et je crois qu'il y a là une première leçon que tient à donner l'apôtre aux chrétiens de Thessalonique, mais aussi à chacun d'entre nous. À savoir que il ne se laisse arrêter par rien. Quand Dieu l'appelle à aller et aller de l'avant, ce ne sont pas les paroles difficiles, ce ne sont pas les outrages, les actes durs et qui vont l'arrêter dans ce que Dieu lui demande. Il va poursuivre à Thessalonique l'annonce de l'Évangile. Et ceci nous pose une première question. Est-ce que vous et moi, nous nous laissons arrêter par tout et n'importe quoi? Ne suffit-il pas dans notre vie d'une parole de moquerie? Ne suffit-il pas d'une parole un peu ironique, dure, pour que l'on arrête de témoigner? Ne suffit-il pas d'une situation difficile, de personnes qui nous bousculent peut-être, pour que l'on fasse quelques pas en retrait dans notre vie avec le Seigneur? Et c'est là donc la leçon qui nous est donnée en tout premier. Comme ces hommes d'autrefois, nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin de ne pas nous laisser arrêter par toutes les tribulations, par toutes les difficultés et qui arrivent sur notre chemin. Se mettre en retrait, c'est certainement pas ce que Dieu attend de toi et de moi quand les temps sont difficiles. Alors le texte nous donne une précision qui est importante. Il le dit au verset 2, « Mais après avoir souffert, après avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile. » Les difficultés, les coups, les outrages ne les ont pas amenés en retrait, mais bien au contraire, à prendre de l'assurance. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais Paul et ses compagnons étaient en prison et Dieu est intervenu. Il a fait quelque chose de si extraordinaire qu'il ne pouvait faire autrement que de repartir avec courage, avec assurance. Mais regardez à votre vie et regardez à la vie de l'Église de Jésus-Christ. N'y a-t-il pas dans notre vie aussi toutes sortes de temps, de moments où Dieu s'est manifesté d'une manière exceptionnelle, extraordinaire, nous a fait du bien, nous a permis d'aller de l'avant? Et nous devrions, comme ces hommes d'autrefois, aller de l'avant avec assurance, parce que Dieu est un Dieu vivant et qui fait de grandes choses. Certes, ce n'est pas tous les jours que les portes de la prison s'ouvrent comme elles se sont ouvertes là, mais il y a bien de portes de prison, bien des lieux où nous nous sentons piégés, enfermés, qui tout à coup s'ouvrent pour nous laisser sortir de notre difficulté, de notre problème. Et ces portes ont été ouvertes par qui? Oh, que cela puisse nous donner de l'assurance pour poursuivre et dans le chemin et qui est le nôtre. Le texte nous dit avec force, ils ont trouvé en Dieu de l'assurance. Dans le texte grec, de l'audace, de la hardiesse. Eh bien, je voudrais vous dire que l'audace et la hardiesse, on la découvre dans la communion avec Dieu, dans le contact avec lui. Avec le verset 3, l'apôtre évoque des exhortations. C'est un mot qui nous parle de prédication, qui nous parle de partage, qui nous parle aussi de ces encouragements que l'on peut donner de l'un à l'autre dans notre vie. Et alors qu'il évoque les prédications, l'annonce du message dans cette ville de Thessalonique, il va dire que cette prédication qu'il a donnée à Thessalonique ne provient, et il utilise trois mots, ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Ce sont donc là les motivations profondes de l'auteur. Il nous dit donc tout d'abord que son message n'était pas mensonger. Il nous dit ensuite que ses motifs n'étaient pas impurs. Et il nous dit enfin que sa méthode ne reposait pas sur la fraude. Alors, commentons un petit peu ce qu'il souligne dans ces quelques versets par rapport à sa manière d'être, d'annoncer l'Évangile dans cette ville de Thessalonique. La première chose qu'il met en avant, nous la trouvons donc au verset 4, où il est dit « Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. » C'est donc la première parole que j'aimerais souligner, « plaire à Dieu ». C'est une expression que l'homme Paul aime beaucoup. Si vous avez une concordance, regardez le mot, regardez le verbe, et vous découvrirez que l'apôtre l'utilise très souvent en parlant aux chrétiens et qu'il nous invite constamment à plaire au Seigneur. C'est un mot qui est important parce que il est si facile de parler pour plaire aux hommes. Il est si facile de chercher à gagner la faveur du public. Il est si facile de chercher dans la prédication de la construire d'une manière élégante et belle, agréable pour le cœur des hommes. C'est l'apôtre qui écrivait aux Corinthiens et il disait que il n'a pas recherché. Et dans la prédication, toute cette élégance, mais il a recherché à ce que sa prédication soit une prédication puissante, axée sur l'œuvre du Christ à la croix, sur ce que le Christ a fait et a payé comme prix pour que nous ayons la vie. Une prédication axée sur la croix, sur la mort, une prédication axée sur cette nécessité de l'engagement du chrétien, d'une vie du chrétien pour Dieu. Il nous dit en quelque sorte, pas de masque, j'ai dit ce que j'avais dans mon cœur, que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Et il nous montre dans ce texte que c'est Dieu qui éprouve les cœurs. Et je voudrais donc en tirer une leçon pour vous et pour moi. Plaire, non pas aux hommes, mais à Dieu. C'est donc l'attente de notre Dieu, l'attente pour chacune de nos vies, et qu'elle soit une vie qui regarde le Seigneur et qui cherche dans tous les domaines à plaire au Seigneur. Alors, je le sais, nous vivons dans un monde difficile et je le sais aussi que notre cœur nous pousse naturellement à chercher à plaire. Regardez un tout petit peu votre vie et vous verrez que c'est le penchant naturel. Quand on est en collectivité, quand on est là avec quelques amis, dans notre manière d'être, de parler, de nous présenter, de dire les choses. Le texte ne nous dit pas qu'on doit se présenter n'importe comment ou vivre n'importe comment. Mais il nous dit, n'est-ce pas, il faut que la priorité soit Dieu et que la priorité soit que dans toute nos paroles, dans tous nos actes, eh bien Dieu soit honoré. On peut très bien, au travers de cela, plaire aussi autour de nous. Mais ce n'est pas une recherche de l'homme et du regard de l'homme, du plaisir qu'on pourrait apporter aux hommes, mais c'est une recherche du regard de Dieu et de le plaire et de lui plaire à lui. La deuxième indication qui nous est donnée concerne les paroles flatteuses. Et l'apôtre nous dit à plusieurs reprises un « jamais ». Il est dit au verset 5 ces mots « jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses ». J'évoquais tout à l'heure ces charlatans qui parcouraient le monde romain de l'époque, qui allaient de ville en ville ou de village en village, et de ces hommes qui avaient de belles paroles pour plaire aux hommes, pour proposer aux hommes toutes sortes de choses extraordinaires. Pour proposer la guérison, pour proposer des choses spectaculaires, pour proposer que sais-je. Mais ce n'était que flatter l'ego de ces hommes et de ces femmes. Permettez-moi de vous dire que les siècles ont passé, mais que les choses ont peu changé. Et que si au premier siècle, l'apôtre devait avertir l'Église en leur disant « faites attention aux paroles flatteuses », Il nous faut aussi dire en ce 21e siècle, faites attention à tout ce qui flatte l'homme, à tout ce qui vous propose la réussite, à tout ce qui vous propose les choses spectaculaires, extraordinaires. Oh, je crois en un Dieu qui fait des choses spectaculaires aujourd'hui, qui guérit, qui fait et qui peut faire des choses étonnantes. Mais nous ne devons jamais être là à promettre des choses qui ne sont pas. Nous croyons en un Dieu souverain qui fait ce qu'il veut, comme il veut, et qui le fait en son temps. Nous n'avons jamais eu de parole flatteuse. Mais il rajoute aussi cette parole, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Un petit peu plus loin, il va évoquer au verset 9 son travail et il dit « Notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être en charge à personne. » Or, ça nous paraît un petit peu étrange quand nous lisons cette expression « nuit et jour, à l'œuvre ». Mais dans le monde de l'époque, on met la nuit avant le jour, et donc nuit et jour à l'œuvre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vraisemblablement que l'apôtre Paul et ses compagnons à Thessalonique, pour ne pas être en charge à ces personnes nouvellement au Seigneur, mais aussi dans différentes villes où ils seront, eh bien, travailler de leurs propres mains pour gagner leur pain, pour gagner ce qui était nécessaire à leur subsistance. Et en quelque sorte, il est là en train de se dissocier de ces charlatans, de ces religieux qui sont à réclamer l'argent, qui sont à réclamer toutes sortes de moyens pour leur subsistance, qui offrent en contrepartie d'argent, un message. Et lui, il est en train de dire que sa prédication est une prédication gratuite, qu'il œuvre de ses mains et qu'il œuvre nuit et jour, vraisemblablement la nuit avec ses heures de travail pour gagner donc sa vie et chaque fois qu'il le pouvait dans la journée, à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Et c'est donc intéressant de le noter, puisque nous vivons encore des époques où cette cupidité est là, où certains veulent vivre de l'Église de Jésus-Christ, où des chrétiens veulent vivre d'une manière injuste. Je crois que le texte biblique nous l'enseigne que l'ouvrier mérite son salaire et qu'il est nécessaire de donner dans l'Église de Jésus-Christ, de donner pour les missions, de donner. Mais il est question là des mobiles de certains qui veulent profiter en quelque sorte d'une manne pour s'enrichir personnellement, pour des choses qui sont tout à fait personnelles. Et cela est condamné avec force par l'apôtre. Il nous dit enfin une autre parole importante que nous trouvons au verset 6. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Alors, on peut chercher les honneurs, on peut chercher la position, on peut chercher dans l'Église de Jésus-Christ tout ce qui peut satisfaire l'amour-propre. Mais ceci, l'apôtre le condamne en montrant qu'il n'a pas recherché à être dans une position élevée. Il dit un petit peu plus loin, « Je suis apôtre ». Et il aurait pu, en tant qu'apôtre, dire « Je suis apôtre, vous me devez le respect ». Mais bien au contraire, il va dire dans quelle attitude il est. Et pour ce, il donne deux images. Il dit premièrement, et au verset 7, qu'il est comme une nourrice, certains textes ont comme une mère, comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Et un petit peu plus loin, au verset 11, il nous dit qu'il a été pour chacun d'eux comme un père pour ses enfants. J'aime beaucoup le texte. Paul dit avoir été pour ces chrétiens de Thessalonique à la fois une mère et un père. Alors tout d'abord, un mot avec la première image que nous avons au verset 7, comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Alors, dans le texte grec, c'est bien le mot nourrice qui est là. Et la nourrice, en fait, sa fonction première, c'est d'allaiter, c'est de donner la subsistance nécessaire, la nourriture nécessaire à son enfant. Et la particularité de la nourrice, eh bien, c'est qu'elle va nourrir un après l'autre ses enfants. Il y avait des nourrices qui le faisaient pour plusieurs enfants. Alors c'est une image féminine, Paul utilise plusieurs fois des images féminines pour parler de son ministère, hein. Et il dit, n'est-ce pas, qu'il aurait souffert les douleurs de l'accouchement, hein, ou les douleurs de la grossesse pour les chrétiens. Il a d'autres images un petit peu étonnantes, comme ça, des images féminines. Mais avec cette image qui parle du fait de cette préoccupation de chaque personne, il y ajoute un mot fort. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. On aurait pu s'imposer, nous avons été pleins de douceur. Alors c'est un peu l'image de la maman, c'est l'image de la mère, de la nourrice, avec un cœur qui est tendre et qui donne tout ce qu'elle a, qui donnerait sa vie pour son enfant, qui sacrifierait tout. Une maman qui sacrifie parfois ses nuits, qui sacrifie sa santé, qui fait, vous savez, une maman, hein, elle fait énormément de choses. Et elle se donne de tout son être. C'est ce qu'a été Paul pour ses chrétiens. Puis la deuxième image, donc au verset 11, est cette image du Père. Et alors, l'image du Père, nous la retrouvons plusieurs fois dans les Épîtres. Je ne vais pas prendre le temps de rechercher avec vous tous ces textes, mais nous avons au moins une douzaine de fois où Paul est... Et, comment dire, montre que comme un père, eh bien, il travaille auprès de ses enfants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que généralement, avec le père, c'est plus la question d'autorité, de discipline, c'est, comment dire, un peu la fonction du père qui est mise en avant. Il a été une mère remplie de douceur. Mais il a été un père aussi, avec de la fermeté, avec aussi des exigences pour ces chrétiens. Et je voudrais tirer de cela encore une leçon pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas, sur le chemin de notre vie, Dieu nous donne des hommes et des femmes dont nous devons nous occuper, des enfants, des petits-enfants, mais des parents, des amis, ou en tant que chrétiens, ou en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler. Nous devons travailler de la part de Dieu, être au service de Dieu auprès de ces hommes et de ces femmes. Et nous avons une double invitation à être, pour ce que Dieu nous donne, à la fois des mères et des pères. Remplis de douceur, remplis de tendresse, à donner la nourriture nécessaire, à donner la subsistance nécessaire, mais des pères aussi, qui savent dire les limites pour la vie. Je voudrais conclure avec le verset 12. Il y a ces mots, nous vous avons exhorté, nous vous avons consolé, nous vous avons adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, un appel au royaume et à la gloire, nous sommes tous appelés au royaume et à la gloire. N'est-ce pas, tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Seigneur Jésus, eh bien, il leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Il a fait d'eux des enfants de Dieu. Tous ceux qui ont donc, dans un acte de foi, saisi le Christ, font partie de ce royaume. De ce royaume qui est aujourd'hui, de ce royaume qui est l'ensemble du peuple de Dieu sur la terre, mais ce royaume aussi qui vient, ce royaume glorieux qui apparaîtra. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne. C'est ce à quoi vous et moi nous sommes appelés, à marcher d'une manière digne. Et je voudrais simplement vous poser cette question. Quand Dieu vous regarde, est-ce qu'il voit une femme, un homme qui marche d'une manière digne? C'est ce à quoi nous devons nous exhorter mutuellement, constamment, jusqu'au bout du chemin.